C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le 21 octobre 1978, à 18h19, un Cessna 182L immatriculé VHSJS prend son envol de l'aéroport de Moorabbin, un quartier situé au sud-est de Melbourne, en Australie. Aux commandes se trouve Frédéric Valentich, un élève pilote de 20 ans. La température est idéale pour un vol entre chien et loup. Les vents sont légers et le ciel est dégagé avec seulement quelques cirrus à 9000 mètres. Les intentions du pilote sont de se rendre à King Island, une île située à mi-chemin entre le continent australien et la Tasmanie. Son itinéraire ressemble à une course à relais. Valentich doit d'abord relier Mornington, presque en ligne droite au sud de l'aéroport de Moorabbin, tourner vers l'ouest, vers Queenscliff, en survolant Port Phillip Bay, longer la côte jusqu'à Cape Otway, puis mettre le cap vers le sud, en direction de King Island. Une étendue de 80 km au-dessus du détroit de Bass, lequel relie l'océan Indien à la mer de Tasmanie. À 19h, Valentich informe la tour de contrôle de l'aéroport de Melbourne qu'il vient de franchir Cape Otway. « Tout est normal », dit-il, et il amorce sa dernière étape vers King Island. À 19h06, le pilote contacte de nouveau Melbourne. Il demande au contrôleur, Stephen Robey, s'il y a un autre aéronef dans le secteur. Les 3 minutes qui suivent sont une reconstitution fidèle à partir des transcriptions originales entre Stephen Robey, l'un des contrôleurs aériens de l'aéroport de Melbourne, et Frédéric Valentich, le jeune pilote aux commandes de son Cessna 182.
Melbourne, avez-vous un trafic en dessous de 5 000 pieds?
Delta, Sierra Juliette, aucun trafic.
Delta Sierra Juliette, il semble qu'il y ait un gros appareil en dessous de 5000.
Delta Sierra Juliette, de quel genre d'appareil s'agit-il?
Delta Sierra Juliette, je ne suis pas sûr. On dirait 4 phares d'atterrissage très brillants.
Delta Sierra Juliette.
Melbourne, ici Delta Sierra Juliette. L'objet vient de passer en dessous de moi à moins de 1000 pieds.
Delta Sierra Juliette, bien reçu. Vous dites qu'il s'agit d'un gros appareil, confirmé.
Inconnu à cause de sa vitesse. Est-ce qu'il y a un appareil militaire dans le secteur?
Delta Sierra Juliette, aucun appareil connu dans le secteur.
Melbourne, il approche maintenant venant de l'est.
Delta Sierra Juliette.
Delta Sierra Juliette, il me semble qu'il joue avec moi. Il vole au-dessus de moi 2 ou 3 fois et à une vitesse que je ne peux pas identifier.
Delta Sierra Juliette, bien reçu. Quelle est votre altitude en ce moment?
Mon altitude est 4500.
Delta Sierra Juliette, confirmez que vous ne pouvez pas identifier l'appareil.
Affirmatif.
Delta Sierra Juliette, bien reçu. Nous restons à l'écoute.
Melbourne, Delta Sierra Juliette, ce n'est pas un avion, c'est...
Delta Sierra Juliette, Melbourne, pouvez-vous décrire cet appareil?
Delta Sierra Juliette, comme il passe, c'est une forme allongée. Je ne peux pas en dire plus, il vole tellement vite. Il est derrière moi maintenant, Melbourne.
Delta Sierra Juliette, bien reçu. Comment grand est l'objet?
Delta Sierra Juliette, Melbourne, il semble stationnaire. Ce que je fais maintenant, c'est tourner en rond et cette chose tourne au-dessus de moi. Il y a une lumière verte et une sorte d'aspect extérieur en métal.
Delta Sierra Juliette.
Delta Sierra Juliette, il vient juste de disparaître.
Delta Sierra Juliette.
Melbourne, pourriez-vous savoir de quel genre d'appareil il s'agissait? Était-ce un appareil militaire?
Delta Sierra Juliette, confirmez que l'appareil vient de disparaître.
Répétez.
Delta Sierra Juliette, l'appareil est-il toujours avec vous?
Delta Sierra Juliette, c'est un... qui approche maintenant venant du sud.
Delta Sierra Juliette.
Delta Sierra Juliette, mon moteur tourne mal. Je l'ai ajusté à 23-24 et il étouffe.
Delta Sierra Juliette, bien reçu. Quelles sont vos intentions?
Mes intentions sont de me rendre à King Island, Melbourne. Cet étrange objet vole au-dessus de moi. Il vole et ce n'est pas un avion.
Delta Sierra Juliette.
Delta Sierra Juliette.
Sierra Juliette. Delta Sierra Juliette.
Stephen Robey ne reprendra jamais contact avec Frédéric Valentich et ce dernier n'arrivera jamais non plus à King Island. À 19h50, heure prévue de l'arrivée de Valentich à King Island, l'aéroport de Melbourne déclenche une opération de recherche. Pendant 4 jours, 18 appareils militaires et civils vont sillonner près de 40 000 km. 3 de ces avions vont refaire, parfois à moins de 50 mètres d'altitude, le trajet anticipé par Valentich de l'aéroport de Morabine à King Island. Rien. On ne retrouvera aucune trace du pilote ni de son Cessna 182L. 2 jours après la disparition, l'équipage d'un Lockheed Orion de la Royal Australian Air Force, la RAAF, localise une tache d'huile à la surface de la mer. Des échantillons sont envoyés au laboratoire Mary Burnong, affilié au ministère australien de la Défense. Les analyses montrent qu'il s'agit d'un mélange utilisé uniquement dans les moteurs de bateaux. Rien à voir avec l'avion de Valentich. Le 25 octobre 1978, les autorités mettent fin aux recherches. Frédéric Valentich est officiellement déclaré disparu. Une enquête est confiée au département australien des transports. La presse australienne, informée des circonstances de la disparition du jeune pilote, monte l'histoire en épingle. L'affaire Valentich devient un événement d'intérêt national et trouve bientôt écho aux 4 coins du monde. L'histoire de ce jeune pilote disparu après sa rencontre avec un OVNI alimente les scénarios les plus fantastiques. Pour d'aucuns, Frédéric Valentich a été enlevé par des extraterrestres. Pendant des années, l'affaire Valentich va périodiquement faire la manchette de la presse nationale. C'est l'histoire d'OVNI numéro 1 du tout continent australien. En décembre 1982, un producteur de films indépendant, Ron Cameron, contacte Guido Valentich, le père du pilote disparu, pour lui annoncer que l'avion de son fils a enfin été retrouvé. Cameron prétend être en relation avec 2 plongeurs qui affirment avoir découvert le Cessna au fond de la mer, au large de Cape Otway. Les plongeurs sont prêts à remettre à Cameron 16 photographies de l'épave et sa localisation précise en échange de 10 000 $. Lorsque Cameron contacte les autorités de l'aviation civile pour s'informer de la possibilité d'un renflouage, les plongeurs deviennent frileux et coupent toute communication avec le producteur, l'accusant de ne pas leur faire confiance. L'affaire n'ira jamais plus loin et les photographies de l'épave ne seront jamais publiées, si épave il y a jamais eu. Depuis, l'affaire Valentich est restée au beau fixe. Un mystère a priori insoluble. Comme on les aime. La disparition de Frédéric Valentich. Dossier 1978-1021. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. La disparition de Frédéric Valentich est l'un des rares cas où un pilote est décédé, ou présumé comme tel, après une rencontre avec un OVNI. L'incident le plus célèbre demeure celui du capitaine Thomas Mantell, survenu le 7 janvier 1948. Ce jour-là, Mantell faisait partie d'un escadron de 3 P-51 lancé à la poursuite d'un OVNI dans le ciel du Kentucky. À un moment donné, le pilote a fait savoir que l'objet était juste au-dessus de lui et qu'il le prenait en chasse. L'OVNI était une espèce de grande sphère métallique. À 17 heures, après de longues minutes de silence, l'avion de Mantell s'est écrasé près de Franklin, à quelques 145 km de la base militaire de Goodman, d'où l'escadron avait décollé. Selon la thèse officielle de l'armée de l'air, la grande sphère métallique à l'origine de tout ce branle-bas n'était qu'un ballon Skyhawk de la marine lâché depuis Clinton, en Ohio. En altitude, de tels ballons se gonflent par les changements de pressions atmosphériques et deviennent en effet de gigantesques sphères réfléchissant la lumière du soleil. Selon l'armée, Mantell aurait grimpé jusqu'à 7500 mètres, altitude à laquelle il aurait perdu conscience à cause d'un problème avec le système d'alimentation en oxygène de son avion. Les appareils de bord indiquaient que le P-51 était monté jusqu'à 9000 mètres d'altitude. L'avion aurait ensuite piqué en vrille pour aller s'écraser à Franklin. Même si cette version est loin de convaincre tous les ufologues, les spécialistes des ovnis, l'hypothèse du ballon Skyhawk demeure la plus vraisemblable, sans pour autant être une certitude absolue. À l'instar du capitaine Mantell, Frédéric Valentich a-t-il pu, lui aussi, être victime d'une méprise qui aurait engendré une série de réactions en chaîne désastreuses? Au milieu des années 1990, je dirigeais l'organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges, l'OSIP. Organisation, comme son nom l'indique, qui colligeait des informations sur les phénomènes paranormaux. J'étais également associé à divers organismes d'enquête sur les ovnis, dont l'association américaine MUFON, pour Mutual UFO Network, et SOS OVNI, un organisme français dirigé par mon ami Perry Petrakis. À cette époque, l'une de mes priorités était la réenquête de certains classiques de l'ufologie, dont bien entendu la disparition de Frédéric Valentich. Pour cette histoire, ma première démarche a été de revoir les comptes rendus publiés dans la presse et dans la littérature consacrée aux ovnis. Dans l'ensemble, les faits rapportés étaient sensiblement les mêmes. La pierre angulaire étant essentiellement la transcription des communications radio entre Valentich et la tour de contrôle de Melbourne. Une transcription vite rendue publique après la disparition. C'est donc par ces communications que j'ai décidé de commencer. Dans un premier temps, j'ai contacté le département australien des transports pour obtenir une copie audio des dites communications, ce qui m'a été refusé. Ces enregistrements étant gardés confidentiels par respect pour la famille. En dehors des enquêteurs du département australien des transports et de la famille proche de Valentich, très peu de gens ont été autorisés à écouter ces enregistrements. Le département des transports m'a toutefois fait parvenir une transcription officielle de ces échanges. Les échanges pertinents débutent à 19h06:14 et s'achèvent brusquement à 19h12:28 par une espèce de bruit métallique d'une durée de 17 secondes. D'après les experts, il pourrait s'agir d'une transmission morte, c'est-à-dire que le pilote a enfoncé le bouton de transmission de son émetteur sans faire de commentaire. Ce qui frappe dans ces communications, c'est leur aspect théâtral. Les dernières paroles de Valentich sont « Melbourne, cet étrange objet vole encore au-dessus de moi. Il vole et ce n'est pas un avion. » Puis, plus rien. On dirait presque un film à suspense. Au moment de découvrir le nœud de l'intrigue, on passe à autre chose. Pour éviter toute confusion ou information contradictoire, chaque avion se voit attitré un contrôleur aérien. C'est lui, et uniquement lui, qui est autorisé à s'entretenir avec le pilote durant sa phase d'approche ou jusqu'à ce que son appareil quitte la couverture de la tour. Le soir du samedi 21 octobre 1978, Frédéric Valentich était en communication avec l'aéroport de Melbourne. C'est le contrôleur, Stephen Robey, qui était en contact. En 1995, un membre de mon équipe a contacté Steve Robey pour recueillir ses commentaires et ses impressions sur ces événements. Rejoint à sa résidence de Greensboro, en banlieue de Melbourne, le contrôleur a raconté qu'il gardait un souvenir clair de cette soirée. « Pour surveiller le trafic aérien, a-t-il expliqué, nous disposions d'un radar. Malheureusement, l'élévation du terrain le long de la côte rend impossible toute détection en dessous de 4500 ou 5000 pieds. »
Outre le radar, nous avions aussi accès au plan de vol de tous les gros appareils susceptibles d'être desservis par l'aéroport de Melbourne. Quand Frédéric Valentich m'a mentionné qu'il voyait un gros appareil, j'ai vérifié si nous n'avions pas un plan de vol concernant un gros transporteur. Mais là encore, nous n'avions rien.
Quant à l'état psychologique du pilote, Robey s'est dit persuadé de l'authenticité des propos du jeune Valentich. Il semblait préoccupé, a-t-il commenté.
Je n'ai jamais eu l'impression qu'il jouait la comédie. Il était vraiment agité.
Au chapitre de la réglementation australienne, il faut savoir que les pilotes, aussi bien militaires que civils, sont tenus de fournir un plan de vol pour chacune de leurs sorties. Malgré cela, il arrive parfois que des pilotes zélés fassent entorse au règlement. Robey admet qu'on ne peut pas être certain à 100% qu'il n'y avait pas d'autres avions dans le secteur. Dans ces conditions, et comme Valentich volait en dessous des 5000 pieds, il n'est pas impossible que l'objet de ses préoccupations ait été un petit appareil civil ou encore un gros avion clandestin volant en dessous de la couverture radar. Au moment de commencer mon enquête, si je fais abstraction des comptes rendus de la presse et des livres plus ou moins sérieux sur les ovnis, le document le plus étoffé sur cette affaire était le livre « The Melbourne Episode » de Richard Hines. L'auteur, qui s'intéresse aux ovnis depuis des décennies, y présente honnêtement les faits. Hines s'est entretenu avec de nombreux responsables proches dans l'enquête du département australien des transports, ainsi qu'avec des proches du disparu. Il est aussi l'un des rares enquêteurs à avoir entendu la bande audio des transmissions enregistrées entre Frédéric Valentich et la tour de contrôle de Melbourne. Mis à part les enquêteurs du département australien des transports et la famille proche de Valentich, peu de gens ont été autorisés à écouter ces transmissions et aucune copie ne circule, pas même dans l'underground ufologique. Hines extrapole librement, trop librement dirait d'aucuns, sur quatre scénarios possibles. L'erreur de pilotage, liée à une désorientation spatiale, le canular, l'enlèvement par des extraterrestres, ou encore un projet secret du gouvernement. Le problème est que Hines ne disposait à l'époque d'aucun élément important pour alimenter l'un ou l'autre de ces scénarios. Écrire, par exemple, que Valentich est allé manger chez McDonald's avant de s'envoler reste anecdotique et ne nous éclaire en rien sur les événements survenus au-dessus du détroit de Bass. Au gré de mes demandes auprès des autorités, j'ai réussi à obtenir le rapport d'enquête du gouvernement australien sur cette disparition. Le jeune Valentich n'y est pas décrit en termes très élogieux. Par respect pour la famille, et en particulier pour Guido Valentich, qui a toujours cru que son fils avait été enlevé par des extraterrestres, je me suis refusé à publier le compte-rendu du dit rapport. Mais les temps ont changé. Guido Valentich est décédé en 2000, et aujourd'hui, je ne me sens plus lié par cette volonté éthique. Frédéric était un jeune pilote novice et sans grande expérience. Il venait tout juste d'obtenir une autorisation pour voler de nuit le 11 mai 1978 et ne comptait que 150 heures de vol à son actif. Malgré sa courte carrière de pilote, il avait déjà eu maille à partir avec les autorités de l'aviation civile. Le 10 juillet 1978, il avait pénétré sans autorisation l'espace aérien réglementé de l'aéroport de Sydney. Cette incursion lui avait valu un sérieux avertissement de la part des autorités. Durant cette même période, il avait fait voler son avion dans les nuages, une manœuvre dangereuse et interdite aux élèves pilotes. Pour cette deuxième offense, les autorités avaient sérieusement envisagé des poursuites légales. Bien sûr, ces entorses pourraient s'expliquer par le manque d'expérience de Valentich. Ce qui s'explique plus difficilement, ce sont ses innombrables mensonges. Si pour ses amis, Fred était l'incarnation de la bonhomie et de la franchise, les enquêteurs du département australien des transports ont découvert un tout autre Frédéric Valentich. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, le pilote s'est réinventé une vie. Il rêvait de passer chez les professionnels. Hélas, depuis un certain temps, il accumulait échec sur échec. Il avait coulé ses examens pour rejoindre les rangs des pilotes de la RAAF, l'armée australienne, et ses pauvres résultats académiques avaient réduit à néant ses chances d'être accepté dans l'aviation civile commerciale. Malgré cela, il continuait de prétendre que tout allait bien, qu'il avait réussi au-delà de ses attentes. Il mentait à ses parents, qu'il aidait financièrement dans ses études de pilote, à ses amis et à ses collègues de travail. Au fil des semaines, ses comportements sont devenus singuliers. À l'époque, Frédéric fréquentait depuis quelques mois une adolescente de 17 ans, Rhonda Rushton. Le couple avait l'habitude de souligner à chaque mois la date anniversaire de leur rencontre. Pour leur cinquième anniversaire, leur cinquième mois, Frédéric a offert à Rhonda une bague d'amitié. Pour une raison que l'adolescente ne s'est jamais expliquée, Fred a insisté pour lui remettre son gage le 13 octobre, alors que la date de leur anniversaire n'était que le 20 octobre. Rhonda a aussi raconté qu'elle avait passé la soirée du vendredi 20 octobre avec Frédéric. Il n'était pas lui-même, a-t-elle confié aux enquêteurs. Il semblait préoccupé et distant. Ce soir-là, au gré de leur conversation, elle s'est rendue compte que Fred avait oublié sa promesse de l'amener faire la fête le lendemain soir. Lorsqu'elle lui en a fait la remarque, ce dernier a rétorqué que son vol jusqu'à King Island n'hypothéquait en rien leur soirée. Il apporterait dans sa voiture des vêtements de rechange et, dès son retour, qu'il anticipait vers 19h30, il filerait directement chez elle. Le lendemain, Frédéric avait visiblement revu et corrigé son agenda pour la soirée. Non seulement s'est-il envolé de l'aéroport de Moorabbin à 18h19, 2 heures plus tard que l'heure annoncée à Rhonda, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucun vêtement de rechange dans sa voiture, abandonnée dans le parking de l'aéroport. D'autres détails, liés plus directement à son vol, soulèvent aussi des interrogations. Le samedi 21 octobre 1978, Frédéric Valentich a déposé un plan de vol pour un trajet de l'aéroport local de Moorabbin à King Island. Son heure de départ était prévue pour 17h45. Le jeune pilote estimait que la première partie de son envolée, entre Moorabbin et Cape Otway, lui prendrait 41 minutes et, pour le deuxième segment, entre Cape Otway et King Island, 28 minutes supplémentaires. Un total de 69 minutes, soit un peu plus d'une heure. À l'agent d'information de l'aéroport, il a raconté qu'il se rendait à King Island pour y prendre des passagers. À des amis et à ses parents, il a plutôt raconté qu'il devait y prendre livraison d'un chargement de langoustes. Dans un cas comme dans l'autre, les enquêteurs du département australien des transports ont appris qu'il n'y avait à King Island ni passagers, ni pêcheurs de langoustines qui attendaient la venue de Frédéric Valentich. En consultant son plan de vol, les responsables du trafic aérien lui ont demandé s'il souhaitait que les lumières de la piste d'atterrissage de King Island soient allumées. Il faut savoir qu'à l'aéroport de King Island, lequel est davantage une piste d'atterrissage qu'un véritable aérodrome, il n'y a aucune permanence. Si un pilote désire utiliser les installations de nuit, comme Valentich souhaitait le faire, il devait aviser par téléphone un employé local d'allumer les lumières de la piste. Dans l'après-midi du 21 octobre 1978, lorsqu'un technicien de l'aéroport de Moorabbin a demandé à Valentich s'il souhaitait procéder de la sorte, le jeune pilote a décliné l'offre. À 18h10, contrairement à ses habitudes, Valentich a fait faire le plein de son appareil, lui qui ne mettait généralement que le minimum sécuritaire par souci d'économie. Avec de telles réserves, le rapport du département des transports parle de 300 minutes d'autonomie. Il aurait pu faire 2 fois l'aller-retour de Melbourne à King Island. À 18h19, son Cessna 182L, loué à la Southern Air Service, a pris son envol. Valentich n'a fourni aucune explication pour ce délai. Avec ce retard de 30 minutes, il savait qu'il arriverait à King Island à 19h30, c'est-à-dire après le coucher du soleil, prévu ce soir-là pour 19h18. Malgré cela, il n'a fait aucune demande pour que les lumières de l'aéroport de King Island soient allumées. À 19h06, Valentich a contacté Steve Robey à l'aéroport de Melbourne pour demander s'il y avait du trafic en dessous de 5000 pieds. Si le contrôleur a été impressionné par le ton du jeune pilote, il n'en a pas été de même avec tout le monde. Rhonda Rushton, l'amie de cœur de Valentich, a raconté aux enquêteurs que son amoureux, lorsqu'il était préoccupé ou inquiet, parlait d'une voix légèrement plus aiguë. En écoutant l'enregistrement de ses communications avec la tour de contrôle de Melbourne en ce 21 octobre, elle a été étonnée de voir à quel point la voix de Fred était demeurée neutre. Post-scriptum étrange à cette série d'actions suspectes, une semaine après la disparition de Frédéric, Rhonda Rushton s'est rendue au Bay Pine Motel d'Apollo Bay, au sud-ouest de Melbourne, pour y retrouver son amoureux. Ce rencard avait été planifié par le couple quelques jours avant la disparition du pilote. D'après la tenancière de l'établissement, Joyce Ford, Rhonda était surprise d'apprendre que Frédéric n'était pas au rendez-vous. À quoi s'attendait-elle? Une semaine après la disparition de Fred et trois jours après avoir été elle-même interrogée par les enquêteurs du département australien des transports, croyait-elle vraiment que Frédéric serait là à l'attendre? Savait-elle des choses que les enquêteurs ignoraient? Questionnée plus tard sur cet épisode, Rhonda a nié s'être jamais rendue au motel. Elle a toutefois admis s'être rendue à Apollo Bay pour y chercher des débris de l'avion de Fred. Que s'est-il passé le soir du 21 octobre 1978 au-dessus du détroit de Bass? Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans Melbourne épisode, le scientifique Richard Hines propose quatre scénarios possibles à la disparition de Valentich. La désorientation spatiale, l'OVNI, l'hypothèse militaire et enfin le canular. Le rapport du département australien des transports nous permet d'évaluer ces hypothèses beaucoup mieux que n'a pu le faire Richard Hines il y a 40 ans. Commençons par la désorientation spatiale. Outre Richard Hines, le sceptique Brian Dunning fait aussi sienne cette hypothèse sur son site internet Skeptoid. Lors de ce périple à destination de King Island, Valentich n'était pas sans savoir que ce vol de nuit, son premier en solitaire, au-dessus de l'océan, présentait certains risques. Nombre de pilotes chevronnés ont été abusés par de telles équipées nocturnes. Au-dessus de la mer, les choses peuvent parfois prendre des perspectives tout à fait inattendues. On a vu des as de l'aviation confondre des lumières de bateaux à celles d'imaginaires avions, se méprendre en regardant les lumières d'un phare côtier ou même se croire poursuivi par la planète Vénus. Valentich a-t-il confondu les lumières d'un navire ou celles d'un phare, celui de King Island ou de Cap Otway par exemple, à un mystérieux OVNI? A-t-il été désorienté par la présence de cette lumière? Sans l'éliminer entièrement de l'équation, il faut reconnaître que l'hypothèse de la désorientation spatiale, du moins prise isolément, prête flanc à la critique. Le rapport du département des transports mentionne que la visibilité était excellente. Les vents légers, des conditions météorologiques confirmées d'ailleurs par le Bureau de météorologie de Melbourne, et que le coucher du soleil était prévu pour 19h18. Ce qui signifie, en supposant que Valentich se soit écrasé immédiatement après sa dernière transmission, à 19h12:28, que son accident serait survenu 6 minutes avant la tombée du jour. Et ce, sans compter qu'en altitude, le soleil reste visible plus longtemps. Dans ce cas, l'obscurité ne peut pas être évoquée comme la grande responsable de la désorientation du pilote. Le sceptique Brian Dunning va jusqu'à comparer le vol de Frédéric Valentich à celui de John Kennedy Jr., même si les détails de ce vol étaient très différents. On sait par ailleurs que certaines pièces utilisées dans la construction des avions de type Cessna, comme celui de Valentich, flottent, et ce justement pour permettre un meilleur repérage au cas où l'appareil tomberait en mer. On sait aussi que Valentich avait à son bord quatre gilets de sauvetage. Dans ces conditions, on aurait dû retrouver des débris. Ce ne fut pas le cas. S'il est impossible de déterminer la cause de cette disparition, peut-on lire dans le rapport du département des transports, Il semble toutefois très improbable que l'avion se soit écrasé entre Cap Otway et King Island. Je suis entièrement de cet avis. Seconde en lice, l'hypothèse de l'OVNI. Ce scénario est difficile à défendre sans preuves convaincantes. Or, mis à part les propos de Valentich, personne n'a rapporté ce soir-là la présence d'un objet volant inconnu au-dessus du détroit de Bass. À 19h50, la phase d'alerte a été déclenchée. Aussitôt, des avions et des bateaux qui mouillaient près de King Island se sont mis à la recherche du pilote disparu. De 20h à 20h55, un bimoteur a refait, à 300 mètres d'altitude, le trajet qu'aurait dû suivre Valentich. Personne n'a rien vu. Ni Cessna 182, ni OVNI. Pour les tenants de l'hypothèse extraterrestre, il existe néanmoins un incident survenu ce soir-là et qui ajoute de l'eau à leur moulin. Vers 18h45, un plombier de Melbourne, Roy Manifold, a pris une série de 6 photographies près d'Apollo Bay, au nord-est de Cap Otway. Sa caméra était montée sur un trépied, l'objectif tourné vers la mer pour y photographier le coucher du soleil. Et l'appareil prenait des photographies toutes les 20 secondes. Ce soir-là, Roy Manifold n'a rien vu de particulier dans le ciel. Mais, quelques semaines plus tard, en récupérant ses clichés au laboratoire de développement, il a remarqué que 2 photographies présentaient des anomalies. La photographie numéro 4 montre une tache à la surface de l'eau, comme si un objet était en train d'immerger. Et le cliché numéro 6 présente une tache sombre, floue et imprécise dans le coin supérieur droit. Pourrait-il s'agir de l'OVNI observé par Frédéric Valentich? La photographie de Roy Manifold a été examinée par les experts du Grand Saucer Watch, un organisme américain qui se spécialisait à l'époque dans l'analyse des photographies d'OVNI. Selon eux, l'objet photographié par Manifold n'était pas un défaut de la pellicule ni un nuage, comme supposé par les enquêteurs du département des transports, mais un objet solide et probablement métallique. Cette analyse a été sérieusement remise en question par Richard Hines, l'auteur du livre de Melbourne Episode. Hines, un scientifique qui a fait carrière au laboratoire Ames de la NASA à Mountain View en Californie, a soumis la photographie numéro 6 à diverses analyses en utilisant les mêmes équipements que ceux utilisés pour l'étude des photographies transmises par les sondes planétaires. Hines est d'avis que l'OVNI apparaissant sur la photographie de Roy Manifold a été rajouté après. Bref, selon lui, cet OVNI n'existe pas et n'a jamais existé. Au-delà de ce débat sur l'authenticité des photographies, il faut se rappeler que ces images auraient été obtenues le 21 octobre 1978 vers 18h45, soit 20 minutes avant le premier message de Frédéric Valentich. Même en considérant que l'objet apparaissant sur la photographie numéro 6 soit bel et bien réel, rien ne prouve qu'il soit l'OVNI décrit par Valentich. Qui plus est, il n'explique en rien les comportements singuliers de ce dernier le jour de sa disparition. Troisième hypothèse, l'intervention militaire. Cette hypothèse fait intervenir un appareil ou un dispositif top secret dans le secteur où évoluait l'avion de Valentich. Dans The Melbourne Episode, Hines soutient que les installations militaires secrètes américaines de Point Gap, près d'Alice Springs, dans les territoires du Nord, pourraient ne pas être étrangères à la disparition du jeune pilote australien. Ce scénario me semble peu vraisemblable, les installations de Point Gap étant situées à plus de 2000 km au nord-ouest de Melbourne. Quant à la possibilité que l'OVNI ait été un appareil militaire de l'armée australienne, celle-ci n'est guère plus défendable. Selon Stephen Robey, les seuls appareils militaires fréquentant ce secteur sont ceux de la base de la Royal Australian Air Force, près de Melbourne. Le hic, c'est que cette base est toujours fermée les week-ends. Frédéric Valentich, est-il nécessaire de le rappeler, a disparu le samedi 21 octobre 1978. Reste l'hypothèse de la manipulation volontaire. Imaginons un instant que Valentich ait décidé d'orchestrer sa propre disparition, définitive, par suicide ou temporaire. Tant qu'à disparaître, aussi bien le faire en beauté. Son choix d'élaborer un scénario autour des OVNI était logique. C'était un sujet qu'il connaissait bien. Il avait lu plusieurs livres, dont « Présence des extraterrestres » d'Eric Von Daniken, et racontait qu'à l'époque où il était cadet dans l'armée de l'air, il avait vu des archives confidentielles. Dans un cartable, il gardait aussi de nombreux articles sur le sujet. Il avait même observé un ovni en compagnie de sa mère. C'était une grosse lumière blanche, 10 fois plus grosse et plus éclatante que la plus brillante des étoiles. L'objet, d'abord immobile, avait disparu en s'éloignant à la vitesse de l'éclair. À l'occasion, il lui arrivait d'aborder le sujet avec son père, Guido, lui aussi un fervent croyant. Frédéric aimait surtout spéculer sur le scénario d'une possible attaque par des extraterrestres. Restons donc dans l'hypothétique et retournons à cet après-midi du 21 octobre 1978. Pour sa mise en scène, imaginons que Valentich ait prévu une envolée secrète, non pas vers King Island, comme il le laissait croire, mais plutôt vers la grande île de Tasmanie, plus au sud, ou vers les terres inhabitées de Hunter Island ou de Three Hammock Island. Ces deux îles comportent des pistes d'atterrissage plus ou moins entretenues et plus ou moins désaffectées. Valentich a donc fait remplir son appareil, différé son heure de départ pour mieux bénéficier de l'obscurité et s'est envolé de l'aéroport de Morabin. Une fois en vol, il a fait savoir qu'il était suivi par un mystérieux objet inconnu, un ovni, qu'il a situé, bien entendu, juste en dessous de la couverture des radars. Pour le verbatim, il s'est inspiré de cet échange fictif qu'il avait vu dans le film « La rencontre du troisième type » entre Air East 31 et la tour de contrôle d'Indianapolis. Au milieu d'une phrase, il a interrompu sa communication. L'effet a fait sensation. Il était à ce moment-là 19h13. Valentich savait très bien que les recherches ne commenceraient pas avant 20 bonnes minutes, soit à 19h33, c'est-à-dire l'heure prévue pour son atterrissage à King Island. 20 minutes, c'était plus qu'il ne lui en fallait pour mettre le cap vers sa véritable destination, et ce, sans compter qu'à ce moment-là, la nuit serait complètement tombée. Mais le plus difficile restait encore à venir. Valentich devait échapper au radar de l'aéroport d'Hobart sur l'île de Tasmanie. Pour ce faire, il a perdu de l'altitude. 500 mètres, 100 mètres, 50 mètres. Puis, le temps de réaliser qu'il était maintenant trop bas. La catastrophe était inévitable. Son Cessna a plongé dans les flots du détroit de Bass en se disloquant comme un vulgaire jouet de papier. À moins que le pilote n'ait volontairement précipité son avion dans la mer. Les débris de son appareil n'ont jamais été retrouvés. Entraîné vers les îlots inhabités de Hunter Island ou de Three Hammock Island, au nord-est de la Tasmanie. Ridicule? Pas sûr. En mai 1983, trois hommes qui marchaient sur une plage de Flinders Island, une autre île du détroit de Bass, située à 250 km à l'est de King Island, ont trouvé une petite pièce de métal carré. Celle-ci a été envoyée aux experts de l'aviation civile qui l'ont identifiée comme étant un volet servant à contrôler l'entrée d'air sur certains moteurs d'avion. Des analyses plus poussées ont révélé que ce même genre de volet était installé sur les Cessna 182L, comme celui loué par Frédéric Valentich. Dans leur rapport, sans pouvoir le confirmer à 100%, les experts supposent qu'il pourrait s'agir d'un débris de l'avion du pilote disparu. Un débris découvert à 250 km de King Island. Si tel est le cas, il s'agirait alors de la seule pièce jamais découverte du Cessna de location et, par ricochet, l'unique preuve que l'avion s'est écrasé et n'a pas été zappé par quelques visiteurs de l'espace.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. De toutes les hypothèses proposées pour expliquer la disparition de Frédéric Varlentisch, une seule tient compte d'à peu près tous les éléments au dossier. La manipulation volontaire. Sans être imperméable à la critique, elle a l'avantage de répondre à de nombreuses questions. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi Varlentisch a embarqué plus de carburant que nécessaire et pourquoi il a retardé son départ de l'aéroport de Morabin. La grande question que risquent toutefois de poser mes détracteurs est « Pourquoi ?» Pourquoi Frédéric Varlentisch aurait-il mis en scène sa propre disparition? Pour échapper à la honte. Et ce ne serait pas la première fois. En lisant le rapport du département australien des transports, l'affaire Frédéric Varlentisch m'a en effet rappelé un autre mystère de la mer, la disparition de Donald Crowhurst. Le 31 octobre 1968, Donald Crowhurst a quitté le port anglais de Tymouk, sur la Manche, pour prendre part à la Golden Globe, une course nautique de plusieurs mois autour du monde. Crowhurst, 37 ans, n'était pas un marin exceptionnel, mais il se disait capable de rivaliser avec n'importe lequel des autres skippers. Il prétendait même avoir un avantage sur ses adversaires, son trimaran, le Tymouk Electron. Crowhurst disait avoir équipé son navire d'appareils de navigation de sa propre invention. Il comptait d'ailleurs tirer profit de ses performances durant la Golden Globe pour intéresser des financiers à investir dans sa compagnie de fourniture électronique, Electron Incorporated. Dès les premiers jours, Crowhurst a surpris tout le monde. Certes, il n'était pas le premier, mais il se maintenait dans le peloton de tête. Il était toujours troisième ou quatrième. Pas mal pour un navigateur de deuxième ordre. Le 10 décembre, il a même annoncé qu'il avait parcouru 243 000 nautiques dans sa journée, un record mondial. Puis, en mai 1969, alors que la course tirait à sa fin, une série d'accidents et d'avaries mécaniques ont forcé les meneurs à abandonner. Cette incroyable situation a placé Crowhurst en pole position. En Angleterre, on s'apprêtait à l'accueillir en véritable héros, mais le skipper n'est jamais arrivé à destination. Le 10 juillet 1969, un cargo a localisé le Tymouk Electron au large des Açores, à des milliers de kilomètres de là où il aurait dû se trouver. Le trimaran était désert. À bord, les enquêteurs ont découvert deux journaux de bord. Le premier contenait toute une série de positions géographiques fictives. Ce sont ces positions que Crowhurst transmettait chaque soir aux officiels de la course pour qu'ils puissent suivre sa progression. Le second journal contenait les véritables positions du Tymouk Electron. Ses relevés montraient clairement que Donald Crowhurst n'avait jamais quitté l'océan Atlantique. Pendant des mois, il avait dérivé au gré des vents, évitant les routes commerciales de peur que sa supercherie ne soit découverte. Malheureusement, l'abandon des leaders l'a placé bien malgré lui en tête de peloton. Dès lors, Crowhurst savait que sa fable ne tarderait plus à être découverte. Plutôt que d'affronter la honte et de passer aux yeux du reste du monde comme l'un des plus grands menteurs de l'histoire, Crowhurst a préféré se suicider en se jetant par-dessus bord. Je pense qu'au moment de se mettre aux commandes de son Cessna 182L, en ce 21 octobre 1978, Frédéric Varlentisch se trouvait dans le même état d'esprit que Donald Crowhurst lorsque celui-ci s'est laissé glisser le long de la coque du Tymouk Electron. Je pense que Frédéric Varlentisch a volontairement choisi de disparaître. Depuis des mois, il mentait à tout le monde. Et comme le disait Abraham Lincoln, on peut mentir à une personne tout le temps. On peut mentir à un petit groupe de gens longtemps. Mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Frédéric Varlentisch le savait. Il se doutait que tôt ou tard, ses fadaises allaient être découvertes. À partir de là, il aurait à vivre avec le sentiment d'être un paria. Primo pour avoir menti à ses proches, secondo pour avoir échoué à devenir la seule chose à laquelle il aspirait vraiment, un pilote de ligne. Mes détracteurs m'accuseront sans doute de faire ici de la psychologie bon marché, mais ce scénario du suicide vaut bien celui d'un enlèvement par des extraterrestres. Selon moi, Frédéric Varlentisch a choisi cette célébrité que lui assure depuis presque 45 ans les livres sur les ovnis plutôt que l'anonymat d'un pilote sans envergure. Dommage que cette notoriété lui ait coûté la vie. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.